rend nos aïeux souvent, arrêtaient les diligences. Oui, mais à présent, quel perfectionnement, on est devenu pure régence. Le triomphateur, c'est le cambrioleur, avec sa pince, monseigneur, qui vous fait sauter les verrous de sûreté, et qui tranquillement, sans le moindre boucan, fait son petit déménagement.
Nous ne sommes pas des voleurs, vraiment c'est trop bête. Nous sommes cambrioleurs, ça c'est bien plus chouette.
Chouette,
c'est nous qui fracturons et qui dévalisons les petites maisons chaque saison. Et quand on est amateur, vraiment c'est bien de l'honneur d'avoir comme visiteur ces bons cambrioleurs.
On arrive la nuit sur le coup de minuit dans une maison solitaire. On flanque au portier en train de roupiller des marrons sur la cafetière. Le bourgeois traqueur devient vert de peur, nous offre des liqueurs. On prend son argent et même son bosse-dents, ses antiquités, son vin frelaté et sa femme par-dessus le marché.
Nous sommes pas des voleurs, vraiment c'est trop
bête.
Nous sommes cambrioleurs, ça c'est bien plus chouette.
Chouette,
c'est nous qui fracturons et qui dévalisons les petites maisons chaque saison. Et quand on est amateur, vraiment c'est bien de l'honneur d'avoir comme visiteur ces bons cambrioleurs.
En juillet dernier, je venais de pénétrer chez une verrière peu bégueule. Mais quelle déception, rien dans la maison, je trouve la vieille toute seule. Alors elle me dit, monsieur le bandit, vous devez être des confits. Car pour tout revenu, je n'ai que ma vertu, je vais vous la donner. Je réponds sans tarder, merci, je veux pas vous en priver.
Nous sommes pas des voleurs, vraiment c'est trop
bête.
Nous sommes cambrioleurs, ça c'est bien plus chouette.
Chouette,
c'est nous qui fracturons et qui dévalisons les petites maisons chaque saison. Et quand on est amateur, vraiment c'est bien de l'honneur d'avoir comme visiteur ces bons cambrioleurs.
Les jeunes débutants, pas assez prudents, s'en vont passer leurs vacances dans de bonnes prisons, pleines de distractions, où l'on fait de chouettes connaissances. Des banquiers sauteurs, des gens dans le malheur, députés ou sénateurs. Ce qui fait que comme ça, quand on sort de là, on a du piston et de belles relations. On ne craint plus les arrestations.
Nous sommes pas des voleurs, vraiment c'est trop bête.
Bête,
nous sommes cambrioleurs, ça c'est bien plus chouette.
Chouette,
c'est nous qui fracturons et qui dévalisons les petites maisons chaque saison. Et quand on est amateur, vraiment c'est bien de l'honneur d'avoir comme visiteur ces bons cambrioleurs.
Bonsoir, vous écoutez bien Vendémiaire, l'émission consacrée ce soir à Marius Alexandre Jacob, et avec l'intervention de Jean-Marc Delpech. Donc ce personnage est peu connu, mais il s'est acquis une solide réputation dans les milieux libertaires, même si elle est controversée. Et avec nous en duplex pour évoquer son parcours, sa démarche et ses idées, Jean-Marc Delpech, qui a produit récemment un ouvrage qui est une solide et peut-être définitive étude sur Marius Jacob, dont le titre est « Alexandre Jacob, l'honnête cambrioleur, portrait d'un anarchiste, 1879-1954 ». Ce livre édité aux ateliers de création libertaire bien connus. Je me propose donc de lui donner la parole après que nous ayons entendu la chanson de Daris et Berger interprétée par Jacques Marchais, La marche des cambrioleurs. Bonsoir Jean-Marc, tu m'entends ?
Ouais, très faiblement, mais bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir. Eh bien voilà, c'est à toi de parler, je t'écoute et éventuellement j'interviens.
Ok. Ben, bonsoir aux éditeurs de Radio Canu, hein, donc la plus rebelle des radios. Alors pourquoi parler de Jacob ? Parce que tout simplement parce qu'il existe une biographie que j'ai écrite et qui a été publiée donc en 2008 aux ateliers de création libertaire, et parce que l'actualité, j'allais dire jacobienne, si je peux me permettre le néologisme, est en train de se préciser et de se bousculer en ce moment, puisque va sortir une nouvelle biographie très prochainement au mois de mai chez Nada, aux éditions Nada, et très certainement aussi une BD, une bande dessinée, hein, donc il me semble aux éditions La Boîte à Bulles, vers le mois de septembre. Donc là, il me semblait que il était intéressant, quoi, de mettre en avant les des pratiques historiques anarchistes et illégalistes sur le plan sur un plan qu'on et de le mettre en avant sur un terrain où d'ordinaire on ne l'entend pas beaucoup parler, hein, puisque Alexandre Jacob est avant tout un illégaliste anarchiste, c'est-à-dire un voleur qui a œuvré au nom d'un idéal.
Et si on reprend un petit peu sa biographie, tu dirais quoi, sans être aussi détaillé que ce que tu as écrit, mais...
Tu peux répéter la question, s'il te plaît.
Je dis sa biographie, tu dirais quoi, si on présentait un petit peu le personnage depuis sa naissance?
De la biographie, je dirais quoi de Jacob?
Oui.
Je dirais que, au-delà de... Le genre biographique est un genre relativement florissant depuis une vingtaine d'années. Le seul problème, c'est que quand un historien ou même un romancier ou même un journaliste font le portrait d'un personnage historique, ils ont tendance à mettre en avant des aspects extraordinaires pour eux-mêmes mettre en valeur la primauté de leur production. Et ça donne une image qui est souvent tronquée, biaisée. Et ça a été le cas pour Alexandre Jacob, puisque l'homme a été l'objet de cinq biographies, dont la mienne. Cinq biographies. La première, c'est celle d'Alain Sergent en 1950, qu'il a écrite du vivant de Jacob, hein, puisque l'essentiel de son ouvrage, c'est essentiellement, il l'a écrit en fonction des dires mêmes d'Alexandre Jacob, puisque Alain Sergent, pour écrire son bouquin, va passer quelques semaines à Reuilly où le vieil anarchiste habitait, c'est-à-dire dans l'Indre. La seconde, c'est celle du journaliste au canard enchaîné, Bernard Thomas, qu'il va réécrire, donc il a écrite en 1970 et qu'il réécrit sans quasiment rien toucher de son texte en 1998. La troisième, c'est celle de l'avocat niçois William Kerruchet en 1993. Et là, on a déjà un problème d'enjeu, puisque Bernard Thomas va plus ou moins tenter un procès à William Kerruchet pour plagiat, si bien que ça va faire chuter la maison d'édition de William Kerruchet, c'est Gers. La quatrième biographie, c'est celle que j'ai pu produire avec l'atelier de création libertaire, et la cinquième en 2008, et la cinquième biographie, c'est celle du cinéaste Jacques Colomba en 2012. Alors si on regarde l'ensemble de ces biographies, je vais enlever la mienne, ben, il ressort que l'image d'Alexandre Jacob, c'est un aventurier extraordinaire. Alors évidemment, ils n'enlèvent pas l'anarchisme, ils ne le nient pas, ils ne peuvent pas le nier, mais ils vont l'édulcorer. Ils font passer au premier plan les aspects extraordinaires des vols, l'ingéniosité du voleur, les traits d'humour du voleur, les petits mots laissés lors de certains cambriolages. Bref, il recompose une image, j'allais dire, quasiment lupinienne.
Mmh. Et sur les dates, par exemple, il est important de savoir à peu près quand il est né, donc 1879, hein, il avait 21 ans en 1900, cet homme-là, et puis son enfance à Marseille, son aventure marine, puisque très jeune, il va se retrouver mousse sur un bateau, enfin tout ça avant d'en venir au cambriolage, quoi. Son intérêt aussi, avec ses relations personnelles, un ami qui l'a emmené découvrir les conférences anarchistes de l'époque, hein.
C'est évident que je ne veux pas faire une analyse marxiste de la geste jacobienne, mais on ne peut pas comprendre un homme si on ne le met pas dans son contexte et si on ne le met pas dans son temps. Et effectivement, il naît le 29 septembre 1879, et il a donc une vingtaine d'années quand il est jugé en 1905. Et la jeunesse peut forcément étonner. Et effectivement, les autres biographes vont s'en servir comme pour amplifier les aspects fantastiques, extraordinaires du personnage. Mais si on y regarde de plus près, tu l'as bien dit, tout le passé d'Alexandre Jacob peut amener à comprendre le pourquoi du comment de sa pratique révolutionnaire qu'a été l'illégalisme anarchiste. Alors, quel est ce contexte? Tu l'as dit, il est né à Marseille, donc le 29 septembre 1879, et il est né à Marseille non pas dans les beaux quartiers, hein, puisque Marseille, à cette époque-là, c'est une ville d'environ 400 000 habitants, en pleine explosion urbaine à la suite de la révolution industrielle. C'est une ville où s'oppose matériellement, littéralement, de visu, qu'on pourrait appeler la lutte des classes, les beaux quartiers sur la corniche, s'opposant au centre plus prolétaire, c'est le quartier de la Belle de Mai, et ainsi de suite. Dans ce contexte, notre Alexandre Jacob, il naît, lui, dans un milieu populaire. Les parents d'Alexandre Jacob, Joseph Jacob et Marie Berthoud, ne sont pas forcément issus du Lumpen prolétariat, mais ce ne sont pas des bourgeois, ce sont de petits artisans. Il est boulanger, Joseph Jacob, il tient la boulangerie familiale avec sa femme Marie, et avant d'être boulanger, il a été navigateur, et Alexandre Jacob va naître dans ce milieu-là. Le seul problème, c'est que Alexandre Jacob, il est un enfant unique, il a eu trois frères qui sont morts en bas âge, et il est l'attention de la cellule familiale. C'est le petit chéri, et le petit chéri, on veut en faire un homme, donc on va le mettre à l'école. À l'époque, c'est pas encore l'école de Jules Ferry, hein. L'école de Jules Ferry, c'est les années 1881-1882. Là, on est quasiment à cette époque, mais il faut du temps pour que l'école républicaine s'installe. Jacob va donc, lui, aller à l'école des frères chrétiens. Et il va passer son certificat avec une mention honorable, une mention passable. Et très vite, il veut faire comme son père l'a été, il veut être marin. Et c'est là qu'il va s'engager comme mousse auprès des messageries maritimes. Alors l'histoire des voyages de Jacob, hein, et il le dira à son procès en 1905, j'ai vu le monde et il n'était pas beau, elle commence, j'allais dire, comme un conte de fées sur la Canebière. On est quasiment à la veille de Noël, le gamin de 10 ans, 11 ans joue dans les rues et il rencontre un monsieur qui lui demande de l'aider à porter son sac, et il se trouve que ce personnage est le capitaine Martineau qui, pour le remercier, lui demande ce qu'il veut faire plus tard, et Jacob répond tout petit, je voudrais être marin comme mon père. Et là l'aventure commence, parce que le capitaine Martineau est en fait un agent recruteur pour le compte des messageries maritimes, et rendez-vous pris avec les parents, et dans les mois suivants, en fait au mois de janvier 1891, Jacob est embaugé comme mousse au bord du Tibet. Et le Tibet est un paquebot qui fait le voyage entre Marseille et les côtes de l'Afrique occidentale. Alors par la suite, il va changer plusieurs fois de navire, et le plus important, ça va être les voyages qu'il va faire sur le Ville de la Ciotat qui fait, lui, la navette entre Marseille et la Nouvelle-Calédonie via l'Australie. Et j'allais dire que si les voyages forment la jeunesse, on a avec Alexandre Jacob un gamin qui effectivement voulait voir le monde, qui était féru de lecture. J'allais dire, contrairement à pas mal de gamins de son époque, c'est un gamin qui lisait énormément, qui plongeait ses rêves dans les écrits de Dumas, dans les écrits de Victor Hugo, dans les écrits de Jules Verne, et qui avait l'ambition de devenir capitaine au long cours. Donc il faut imaginer le rêve qui peut se procurer lorsque on propose à un gamin donc de voyager. Et sur le Ville de la Ciotat, j'allais dire que le rêve, il va s'écrouler littéralement, parce qu'il va découvrir au sens propre comme au sens figuré que le monde, il n'est pas beau, que la vie sur les bateaux n'est pas belle, que lui, petit mousse qu'il est, adolescent, il est la ferveur des dames qui voyagent en première classe, mais aussi la ferveur des autres matelots qui en veut à son fondement. Donc il va connaître les mœurs homosexuelles des marins, il va connaître les mœurs déviantes de la première classe, et surtout, énorme dichotomie sociale, il va voir ce qui se passe à fond de cale, c'est-à-dire qu'à fond de cale, dans ces grands vapeurs des messageries maritimes, on va transporter des clandestins, on va aussi ramener certains bagnards au bagne de Nouvelle-Calédonie, et tout ça imprime une marque réelle sur ce gamin qui était Alexandre Jacob.
Voilà, pour cette partie. On peut pas dire pour autant que c'est là qu'il ait pris le virus de l'anarchie, quoi.
C'est pas aussi tranché que cela en effet. Il n'empêche que parallèlement, il n'est pas tout le temps sur des bateaux. Alexandre Jacob, il fait des escales, il revient de temps en temps à Marseille et il fréquente les plus on avance dans le temps, plus le gamin grandit, plus l'adolescent sort dans les bars et les guinguettes marseillaises. Et donc il évolue dans une ville où l'agitation politique est très ancrée à gauche, au moins depuis 1881, c'est-à-dire depuis le retour des communards. Donc ça, faut pas l'oublier non plus. On n'évolue pas dans un contexte, j'allais dire, apolitique. On est dans une ville qui est bouillonnante, dans un creuset de socialisme, et dans ce creuset de socialisme, l'anarchisme est particulièrement vivace. Il n'y a qu'à voir les entrées qu'ont pu se faire lors des tournées de conférences d'un Sébastien Faure ou d'une Louise Michel, par exemple. Et ça, le gamin ne peut pas l'ignorer, ne peut pas avoir vécu sans. De la même manière, lorsqu'il est sur les bateaux des messageries maritimes, cette vie de marin ne lui plaît plus, et avant de toucher la Nouvelle-Calédonie, il décide de déserter et il déserte à Sydney. Et lorsqu'il est à Sydney, il va vivre d'expédient, il va même être gardien de phoque, et il va finir par se faire embaucher sur un baleinier. Or, il se trouve que lors d'une sortie en mer, Jacob apprend ou découvre que ce baleinier n'a de baleinier que le titre, et c'est qu'en fait un bateau pirate, et que l'acte de piraterie en tant que tel va littéralement le dégoûter à la vue du sang des victimes de ces pirates. Et là, il va déserter une deuxième fois. Et grand bien lui en prend, parce que, après avoir déserté, le baleinier pirate qui l'avait engagé vont se faire prendre, et donc vont se faire arrêter, et seront exécutés. Alors ça, l'anecdote aussi extraordinaire soit-elle pour un gamin de 14-15 ans, va forger le caractère du gamin et lui imprimer, je veux pas dire, non pas une certaine non-violence, mais en tout cas va lui indiquer que toute violence n'est pas forcément bonne dans une pratique politique.
Ouais. Et très vite après, donc il va se retrouver en 97, donc il a 18 ans, il va se retrouver arrêté une première fois dans une histoire pas très clair, quoi. Avait-il vraiment une responsabilité dans ce qu'on lui reproche à ce moment-là ?
Il a forcément une responsabilité, puisque il est militant anarchiste à cette époque. Il a abandonné la navigation vers 1896, donc c'est-à-dire à son retour quasiment après sa désertion. Il avait continué un tout petit peu, mais il a fini par abandonner. Et dès son abandon, il se met à fréquenter de plus en plus les cercles anarchistes. Et nous sommes, une fois encore, nous sommes dans un contexte d'une époque où 1896-97, c'est la chasse aux anarchistes. Il ne faut pas oublier que deux ans auparavant, donc en 1893-1894, les lois scélérates veulent, j'allais dire, fermer leur gueule, gros guillemets, aux propagandistes par le fait, puisque pendant deux ans, de 1892 à 1894, la France a eu peur des bombes de Ravachol, a eu peur des bombes d'Émile Henry, a eu peur des bombes de Vaillant et a frémi d'horreur devant l'assassinat du président Sadi Carnot. Autrement dit, après ces lois dites scélérates, 1893 et 1894, il fait pas bon de crier anarchiste. On a de nombreux anarchistes qui sont envoyés au bagne. Les anarchistes sont fichés, c'est ce qu'on appelle le carnet B. Hein. Et voilà qu'un jeune gamin de 17-18 ans se met à militer de plus en plus, se met à être de plus en plus actif au sein d'un groupe qui s'appelle la Jeunesse Internationale. Tellement actif qu'il décide, ce groupe de la Jeunesse Internationale de Marseille, de créer un journal, l'Agitateur, vers le mois de février-mars 1897. Alors le journal ne va pas tenir, mais c'est un signe de vitalité, et c'est surtout une preuve que Jacob est réellement actif. Or, être actif en politique, c'est forcément se signaler dans ce contexte à la police marseillaise, qui ne va pas le rater. Et effectivement, comme tu l'as dit, au mois de juin 1897, il est arrêté pour fabrication d'explosifs. Et là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Et dans quel contexte cela s'est-il passé? Alors, l'arrestation d'explosifs, elle est toute simple. La police a débarqué chez lui un beau matin. Elle l'arrête, lui et un de ses compagnons, Émile Babot, et donc pour fabrication d'explosifs sur dénonciation d'un voleur marseillais qui s'appelait Leca, et on sait, j'allais dire, source à l'appui, source policière, mais aussi souvenir de Jacob, qu'en fait, Leca était un indicateur de la police qui s'était mis en cheville avec ses deux jeunes gens, Babot et Jacob, et qui lui avait donné une petite brochure qui s'appelle l'indicateur anarchiste, qui avait été publié à Londres en 1891-90 par un groupe qui s'appelait une maison d'édition qui s'appelait les imprimeries anarchistes internationales, quelque chose comme ça. Et un tout petit opuscule, donc l'indicateur anarchiste, extrêmement dangereux et extrêmement surveillé par la police, pour la simple et bonne raison que cette brochure d'une quarantaine de pages donne les recettes de fabrication des explosifs tels que le TNT, tels que la dynamite, etc. etc. Donc forcément les flics trouvant l'indicateur anarchiste donné par le cas à Jacob est cuit et il va être condamné à 6 mois de prison. C'est pas énorme, mais il faut considérer le jeune âge du gamin. Il n'empêche qu'après cela, Jacob ne va plus être lâché. Ça, c'est la version officielle. Si on y regarde de plus près, si on approfondit l'affaire de plus près, on s'aperçoit que, à la même époque, au même moment, le président Félix Faure, donc celui-là même qui est mort par une porte dérobée, on racontera l'histoire une autre fois, donc le président Félix Faure est en voyage dans le Midi, dans le Midi et en Italie. Et l'occasion était trop belle pour montrer que la République française s'occupait de la sécurité de ses citoyens et organisait toujours la chasse aux anarchistes. Autrement dit, il est fort probable que l'arrestation de Jacob soit un coup sciemment monté par les services de police marseillais, par la police des chemins de fer, c'est-à-dire l'ancêtre de la police politique de notre DCRI, de manière à faire un bon coup de pub médiatique pour la politique sécuritaire de la République. Oui.
Voilà. Allez, je te propose qu'on fasse une pause musicale. On va peut-être la faire avec une chanson écrite par Sébastien Faure, La Révolte, interprétée là par les Quatre Barbus.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces.
Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui gourba nos pères.
Car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernement, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine.
D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance.
C'est nous tous qui produisons tout et nous vivons dans l'indigence.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernement, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Les
L'État nous écrase d'impôts, il faut payer ses juges, sa flicaille. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille.
Les maîtres ont changé 100 fois, c'est le jeu de la politique.
Quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique.
Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie.
Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre.
Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire.
Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. État, cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Nous venons d'écouter les quatre barbus interpréter la chanson de Sébastien Faure, La Révolte, et nous retrouvons Jean-Marc Delpech pour évoquer la suite de la vie et des actions de Marius Jacob. On en était arrivé à la période où, après une condamnation, il allait commencer à penser à une activité de cambriolage. Je te donne la parole.
Alors oui, avant de reprendre, il faut bien préciser que le nom exact, c'est Alexandre Jacob. Marius n'est que son second prénom à l'état civil. Et si la mémoire collective retient Marius, c'est tout simplement parce qu'à la fin de sa vie, quand il est devenu marchand forain, il a pris le prénom Marius plutôt qu'Alexandre, parce que il y a beaucoup moins de lettres dans le mot Marius que dans le mot Alexandre. Et donc ça revenait moins cher, nettement moins cher, à faire graver sur le barnum qu'il utilisait sur les foires et les marchés du Val de Loire. Au final, on a tendance à confondre les deux, et les biographes précédents vont utiliser le prénom Marius plutôt que le prénom Alexandre, parce que ça leur permet d'accentuer sur toute une imagerie, j'allais dire, méridionale. Donc, on retrouve notre Alexandre Jacob en 1898, à sa sortie de prison, après sa condamnation pour fabrication d'explosifs. Et là, la police ne le lâche littéralement plus. C'est pression policière sur pression policière. À chaque fois qu'il tente ou qu'il trouve un travail, les flics de Marseille s'arrangent pour qu'il soit licencié. C'est de fréquentes incursions au domicile de ses parents avec fouilles et ainsi de suite. Mais Jacob va l'écrire lui-même à Jean Métron, donc l'historien de l'anarchisme, en 1948, alors que Métron faisait sa thèse. Il l'écrit dans un papier qui s'appelle « Les souvenirs racis d'un demi-siècle » et que l'on peut trouver dans les écrits de Jacob publiés par l'Insomniac en 1995 puis en 2004. Il écrit « Tout cela maigrit et me révolta ». Si bien que au mois de mars 1899, le 31 mars très exactement, on a le vol extrêmement audacieux commis par Jacob et trois de ses complices au Mont-de-Piété de Marseille, dans la rue du Petit-Saint-Jean. C'est dans la rue du Petit-Saint-Jean, c'est dans le premier arrondissement à Marseille, pas très loin de la gare. Donc Et ce jour-là, on a quatre hommes qui rentrent chez ce commissionnaire du Mont-de-Piété, un sieur Gilles, G-I-L, et ils sont habillés en policiers. Ils ont une tenue d'officier. Il y a un commissaire, le commissaire Jules Ponce, et trois de ses acolytes. Et ces quatre policiers donnent l'ordre au commissionnaire Gilles du Mont-de-Piété de dresser l'inventaire de tous les produits qu'il peut avoir, parce que ils ont eu vent, le vin possible recèle d'objets volés. Et le commissaire Gilles, tout affolé, s'exécute. L'inventaire prend des heures et des heures. Les policiers réquisitionnent tous les objets qu'ils ont pu noter, et finissent par appréhender un chariot taxi, mettent les objets dedans, mais ils embarquent aussi le commissionnaire Gilles et un de ses employés qu'ils vont conduire au palais de justice de la ville. Là, Jacob, qui est le plus jeune, hein, Jacob ne jouait pas le rôle du commissaire de police, puisque il est trop jeune pour cela, c'est son compagnon Arthur Rock qui le faisait. Donc Jacob accompagne le commissionnaire du Mont-de-Piété au palais de justice et lui intime l'ordre de s'asseoir sur un banc dans le palais de justice en lui disant que le juge d'instruction va le recevoir, mais que lui doit faire une course et que surtout il ne doit pas bouger. Et effectivement, Jacob, ne revient pas. Les bandits, enfin les voleurs se sont enfuis, et le commissionnaire du Mont-de-Piété finit par alerter par ses cris d'effroi les gardiens du palais de justice qui le mettent au dépôt dans l'attente d'être reçu le lendemain par un juge d'instruction. Sauf que le lendemain, tout le monde s'aperçoit de la supercherie, puisqu'il s'agit du 1er avril 1899. Et là, Jacob est rentré dans la grande famille, j'allais dire par un coup extrêmement audacieux, dans la grande famille des illégalistes anarchistes.
Néanmoins, il n'en profitera pas beaucoup ni longtemps, parce qu'il va être identifié assez vite et arrêté.
Alors, effectivement, le coup est commis le 31 mars 1899. Il est condamné par contumace pour cette affaire le 9 juin donc de cette année, et il est arrêté à Toulon le 29 de ce mois. Entre-temps, donc entre le 31 mars et le 29 juin, il a eu le temps avec Arthur Rock, puis avec d'autres complices rencontrés sur la route. Il a eu le temps de cambrioler dans le Languedoc-Roussillon, d'aller en Espagne, puis de retourner sur Marseille. À l'intérieur de cette ville, il va cambrioler quelques églises, puis d'aller en Italie et de revenir. Et c'est à son retour d'Italie, donc à Toulon, qu'il se fait arrêter. Et là, il sait qu'il risque 5 ans de prison. Et pour éviter ces 5 ans de prison, il va simuler la folie. Les policiers ont noté des signes de dérangement, et le juge, d'application des peines d'Aix-en-Provence, ordonne sa mise en observation à l'asile d'aliénés d'Aix-en-Provence, l'asile Montperrin. Ah, c'est très exactement, c'est le 18 octobre 1899 que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonne le placement et l'observation de Jacob, donc dans cet asile d'aliénés. Et là, le plan de Jacob, j'allais dire, fonctionne à merveille, et cela permet de montrer que finalement ce bonhomme-là n'a pas commis un vol simple ou n'agit pas seul, il agit en réseau, puisque de l'extérieur, des compagnons vont travailler à son évasion, et que de l'intérieur, Jacob réussit à se lier d'amitié avec un infirmier qui se trouve être anarchiste, qui s'appelle Marius Royer, et de l'intérieur comme de l'extérieur, l'évasion finalement va finir par se produire dans la nuit du 18 au 19 avril. Jacob est dans une cellule sous surveillance, et une nuit, donc cette nuit, dans la nuit du 18 au 19 octobre 1800, non, du 18 au 19 avril, pardon, 1900, le surveillant chargé de garder les cellules des fous à surveiller entend du bruit dans la cellule de Jacob, et il aperçoit une ficelle, enfin une corde qui tombe du toit. Et là, il ouvre la porte, et Jacob a juste le temps de simuler la prise en main d'un revolver qu'il n'a pas, hein, il fait croire. Le surveillant s'est enfui, et Jacob a pu grimper sur les toits, et donc s'est évadé par les toits de l'asile Montperrin. Et là, on a un pas nouveau qui a été franchi, puisque à partir de ce mois d'avril 1900, Jacob est recherché, j'allais dire, quasiment par toutes les polices de France et de Navarre. Si on regarde les dossiers de Jacob qui sont aux archives nationales, qui sont aux archives de Fontainebleau, on s'aperçoit que il y a eu des envois des commissions de recherche faites dans tous les départements de France.
Ouais. Et pourtant, il va se remettre au travail tout de suite et pouvoir œuvrer pas mal, quoi.
Absolument. Et c'est là que sont constitués réellement les travailleurs de la nuit. Alors, pas très loin, finalement, de Marseille, puisque Jacob, il s'est réfugié à Sète. Il s'est réfugié à Sète, mais dans les dossiers d'archives, on a un dossier de police qui finit par croire que Jacob est parti aux États-Unis. Donc j'allais dire qu'il a un peu le champ libre. Et à Sète, il va pas se réfugier chez n'importe qui. Il se réfugie chez Ernest Sorel. Ernest Sorel, qui a été l'ami dans les années en 1894 de Santo Geronimo Caserio, donc l'assassin du président Sadi Carnot. Et c'est chez Sorel, et sous le pseudonyme de Jean Concorde, que Alexandre Jacob finit par recruter toute une bande, j'allais dire, de copains et de gens qu'il avait rencontrés sur Marseille. On trouve à l'intérieur Joseph Ferrand, on trouve Honoré Bonnefoy, on trouve Jules Clarençon, on trouve pas Marius Baudy, parce qu'à l'époque, Marius Baudy fait son service militaire, mais il va intégrer la bande peu après. Bref, on trouve au total plein de gens du Midi qui vont monter une bande de cambrioleurs, et ce sont les travailleurs de la nuit, avec un fonctionnement bien particulier au nom d'un idéal qui est l'idéal anarchiste.
Et qu'est-ce qu'ils font de leur cambriolage? Ils se le répartissent? Ils ont des bonnes œuvres? Ils ont dès ce moment-là, ils ont déjà une idéologie et une pratique avec les bénéfices des opérations?
Alors, dès le départ, j'allais dire que Jacob imprime sa marque. Les travailleurs de la nuit doivent verser au moins 10% du butin à la cause ou aux œuvres anarchistes. Alors, ça peut être un journal, ça peut être des familles dans le besoin, etc., etc. Mais il est évident que le principe va être très vite remis en question. Ça sera le cas notamment d'une brouille entre Jacob et des travailleurs les plus actifs qui s'appelle Joseph Ferrand. Mais il n'empêche que le principe de base demeure. Ensuite, l'originalité de cette bande, c'est qu'elle pratique le vol quasiment de manière scientifique et industrielle. Alors, scientifique parce que chaque coup est étudié et taylorisé, industriel parce que en l'espace de quasiment de 2 ans et demi, donc de 1900 à 1903, date de l'arrestation de Jacob et du démantèlement des travailleurs de la nuit, Jacob va avouer plus de 156 cambriolages. Si on fait une moyenne, ça nous fait quasiment un cambriolage par semaine. En revanche, on ne parle là que des cambriolages avoués. Si on tient compte du plus petit multiplicateur commun, c'est-à-dire 2, on prend en compte donc plus de 300 cambriolages en même pas 3 ans, on a donc une bande qui aurait cambriolé quasiment plus de 2 à 5 fois par semaine, oui. Donc on a réellement une pratique taylorisée du vol. Alors pourquoi aussi taylorisée? Tout simplement parce que on vole pas comme ça au hasard, c'est pas du vol à la sauvette, hein. C'est du vol qui prend pour base la rapidité des mouvements. C'est tout simple, on utilise le train. Et c'est pour ça que très vite, la bande va se déplacer sur Paris, parce que Paris est le centre du réseau ferré français, encore aujourd'hui, hein. Et à partir de là, on est centré sur Paris, et on va travailler en province.
Et on travaille pas n'importe où non plus, quoi.
Non, puisque déjà les coûts à faire se font à partir donc des cartes des réseaux ferrés, mais aussi des bottins mondains. Donc ce qui veut dire que les travailleurs de la nuit savent très bien dans quelle ville ils vont et ce qu'ils vont chercher dans ces types de villes-là. La deuxième chose, c'est que les vols ne se pratiquent pas, j'allais dire, à l'unité, mais j'allais dire se pratiquent en enfilade. Les travailleurs de la nuit organisent des tournées de vol. Des tournées de vol en suivant les lignes de chemin de fer. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter, on va suivre une ligne de chemin de fer, et à chaque ville moyenne, on va cambrioler. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que on vole pas tout seul, on vole en brigade, c'est-à-dire en bande de 3 à 4 cambrioleurs, se divisant d'abord avec un éclaireur, puis les autres cambrioleurs. L'éclaireur va partir d'abord, va s'arrêter dans une ville, va faire un tour de repérage et va noter les maisons où il estime probable le magot à rafler. Il va poser des scellés. Et peu de temps plus tard, il va faire une deuxième promenade dans cette ville et il va regarder si ces scellés sont tombés ou pas. S'ils sont tombés, ça veut dire que la maison est habitée et donc que la maison ne doit pas être travaillée, c'est-à-dire cambriolée. Si en revanche les scellés sont encore en place, la maison peut être visitée. Alors ce qu'ils appelaient des scellés, hein, ce sont des petits bouts de papier coincés dans les encoignures de portes.
Mmh.
Et donc, une fois qu'il a fait l'inventaire des maisons cambriolables, il prévient par télégramme, le message est encodé hein, avec un prénom, quand c'est le prénom Georges, ça veut dire qu'il y a des coups à faire, et donc, si les complices reçoivent ce télégramme avec le prénom Georges, ils vont débarquer dans la ville, ils seront accueillis par l'éclaireur, et ils cambrioleront. Une fois que les cambriolages est fait, les voleurs repartent par le train, il y en a toujours un qui remonte sur Paris avec le magot, qui va le déposer pour Russell, tandis que les autres vont dans la ville suivante.
Donc une pratique bien organisée, quoi. Hein.
Absolument, et disposant aussi d'un matériel extrêmement performant. Quand il était dans le Midi, Jacob a acquis un magasin de quincaillerie sur Montpellier. Alors là, on n'a pas les sources. On n'a pas les sources pour savoir où exactement. On sait par les lettres qu'il a écrites à sa mère lorsqu'il était au bagne que ce magasin se situait rue du Faubourg Courreau à Montpellier, mais il est impossible de le prouver. Hein. Et dans ce magasin de quincaillerie, il va pouvoir faire fabriquer des outils de cambriolage, des pinces Monseigneur, des échelles de cordes, mais il va pouvoir aussi, surtout aussi, faire venir des coffres-forts sur lesquels il va pouvoir s'entraîner.
Ouais, c'est tout un art pour lui. Puis en plus, cette volonté de ne jamais s'en prendre aux personnes directement, enfin de faire
absolument. L'idée de violence est exclue chez lui, sauf dans le cas d'une défense de sa propre liberté. Et là, on retrouve, j'allais dire, les principes de Clément Duval en 1886. Donc Clément Duval, voleur, anarchiste, qui, lorsqu'on avait voulu l'arrêter en 1886, lorsque le policier qui vient l'interpeller lui crie « Au nom de la liberté, au nom de la loi, je vous arrête », lui va rétorquer « Au nom de la liberté, je vous supprime » et il envoie un coup de pistolet donc sur le policier qui est... Jacob, j'allais dire, c'est la même chose, et il l'écrira à Jean Métron hein, en 1948, qu'il pourrait lui citer des nombres incalculables de fois où, voyant une maison, une cheminée de maison fumée, les voleurs se sont retirés.
Mmh.
Et donc, forcément, on évite le plus possible toute confrontation avec, avec et les habitants de la maison et avec l'autorité. C'est pour ça aussi que Jacob, en plus d'un magasin de quincaillerie, avait acheté un lot de friperies, toujours sur Montpellier, lot de friperies qui lui permettait de se déguiser en honnête bourgeois ou en officier de marine ou en curé, etc., etc.
Allez, on fait une courte pause musicale en hommage avec la chanson « Les travailleurs de la nuit », chanson hommage bien sûr par Zorn Lanard.
Larguant les possédants à la barbe des agents, des brigades du tigre aux lois scélérates. Les travailleurs de la nuit, détroussant les opulents dans un style épatant et surtout non violent. Pour eux distribués à une plèbe soumise qui rêve de voir briller dans leur poche famélique la richesse qui engendre leur triste misère face à la vénalité des masses. Inertes. Qui contemple avec méfiance nos hardis cambrioleurs, anarchistes au grand cœur, mais au cœur de l'histoire, à la barbe de Clémenceau, ils bousculèrent les mémoires. Thank you. crépusculaire. Heureux de mémoire.
Les travailleurs de la nuit par Zolana, et les travailleurs de la nuit, eh bien, Jean-Marc Delpech va encore les évoquer pendant quelques minutes. Je te donne la parole.
Oui, alors on s'est arrêté avec cette bande qui est montée à Paris et on a évoqué donc plus de 253 cambriolages. On ne saura jamais exactement le nombre des cambriolages. Ce qui est sûr, c'est que certains vont réellement marquer l'opinion publique, hein, et même vont devenir quasiment mythiques. Alors pour exemple, je n'en citerai que deux. Le 6 octobre 1901, dans la rue Quincampoix à Paris, on a trois hommes qui ont loué un appartement au 76 de cette rue, au cinquième étage. Et tout simplement parce que au quatrième étage se trouve l'appartement du sieur Bourdin, qui est bijoutier. Et les trois hommes, donc Alexandre Jacob, Honoré Bonnefoy et Jules Clarençon, profitant du week-end et surtout de l'orage qui avait éclaté ce week-end-là, vont en profiter pour percer un trou dans le plancher, tout petit trou, et ce trou, ils vont l'agrandir après avoir réussi à mettre dans ce trou un parapluie qu'ils ont ouvert. Autrement dit, en agrandissant le trou, les gravats tombants ne faisaient aucun bruit. Et ils réussissent ainsi, dans ce week-end, hein, du 6 au 7 octobre 1901, à pénétrer chez le sieur Bourgin, bijoutier, et à s'emparer de plus de 176 000 francs de l'époque, c'est-à-dire certainement de 10 fois plus pour avoir à peu près la somme en euros. Ce vol fait tellement de bruit qu'il en a inspiré en 1955 ou 56, me semble-t-il, Jules Dassin pour le film du Rififi chez les hommes. Et des vols comme ça, on va en avoir énormément, énormément. Alors de temps en temps, Jacob allie l'humour au vol, puisque il va laisser quelques billets chez des personnes cambriolées, et particulièrement dans les églises, à ce que les travailleurs de la nuit appelaient des priantes. À l'église Saint-Sevé de Rouen, par exemple, le sacristain va trouver un petit billet posé sur l'autel, et sur ce billet, il y a marqué « Dieu des voleurs recherche les voleurs de ceux qui en ont volé d'autres ». Et c'est signé Attila, Attila le fléau de Dieu. Hein. Donc Jacob a un certain sens de l'humour, qu'on peut voir aussi lors du cambriolage du juge de paix Hulot au Mans en 1902, me semble-t-il. Cambriolage commis par Alexandre Jacob et Léon Pélissard. Et lorsque le juge de paix retrouve son appartement totalement dévasté, il trouve un billet sur lequel il y a marqué, un billet signé Attila toujours, sur lequel il y a marqué « Au juge de paix, nous déclarons la guerre ». Et ainsi de suite, l'entreprise des travailleurs de la nuit va être pérenne pendant 3 ans. Alors parmi les cambriolages mythiques, mais là totalement improuvable, lorsqu'il se trouve à Rochefort, les travailleurs de la nuit pensent pouvoir récolter un bulletin mais énorme et conséquent dans la maison du capitaine de frégate Julien Viaud. Et s'apercevant qu'il s'agissait en fait de Pierre Loti, Alexandre Jacob va ordonner une retraite générale, parce qu'on ne cambriole pas chez les travailleurs de la nuit les professions jugées socialement utiles, telles que les médecins, les instituteurs, les professeurs ou encore les écrivains. Mais hélas, l'aventure des travailleurs de la nuit, aussi pérenne soit-elle, se brise forcément sur le premier écueil policier, et il a lieu en 1903, et je ne sais pas si nous aurons le temps de le voir maintenant, vu qu'il est 20h53.
On va garder le suspense pour nos auditeurs, on les retrouve lundi prochain avec la suite de la vie et des aventures de Marius Jacob. Alexandre, il y a beaucoup de choses à dire, hein, puisqu'il y aura de la déportation, le bagne à évoquer, tout ça. Pour l'heure, on va peut-être terminer cette émission avec une chanson d'Éric Mie, un hommage à Louise Michel, bienvenue, puisqu'on est toujours dans l'esprit de celui d'Alexandre Jacob. Éric Mie, tu nous en dis deux mots pour la présenter, cette chanson, et le personnage aussi.
Alors, Éric Mie, c'est un chanteur lorrain, que j'ai découvert il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans, et qui tourne en fait sur la Lorraine, mais sur la France et même au-delà qu'avec d'autres. Il tourne aussi en solo, c'est un chansonnier, c'est un humoriste, et il est d'essence anarchiste, et il a écrit dans un album qui s'appelle Dépareillé, me semble-t-il, à moins que ça soit le suivant plutôt, une chanson hommage sur Louise Michel, qui est peut-être un des plus bels hommages qu'on puisse rendre à la Vierge Rouge de Montmartre, qu'on puisse rendre à cette anarchiste qu'elle fut. Et effectivement, on s'aperçoit avec une chanson comme ça que les principes de révolte à laquelle rend hommage Éric Mie ont été aussi ceux d'Alexandre Jacob.
Ben écoute, merci à toi, et puis à la semaine prochaine pour la suite de cette histoire.
À la semaine prochaine.
Je rêve à ton retour, les soirs de désespoir. Louise révoltée, qu'on appelait barbare, et qui criait bien haut, nul ne doit se soumettre, en arrachant le cœur des entrailles du maître. Tu n'aurais pas aimé cette résignation, toi qui remplaces à Dieu par la révolution. Ces chiens rampants qui lèchent le bâton qui les frappe, et ton utopie qui passe encore à la trappe. Louise, Louise, bien la gueule atroce de notre ère, peuplée de bovidés, heureux de se faire traire. Ces familles abruties par la télévision, qui trouvent super cool le chef de l'oppression, comme une jolie fleur écrasée par un char. Aujourd'hui ils s'amusent à brûler des espoirs. Louise, reviens-nous avec tes illusions. Louise, reviens-nous, ils sont devenus cons. Louise, je rêve quand tu cries.
Thank you.